C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous allons assister ensemble à la transformation en profondeur de l'Empire français. Aux commandes, Napoléon III, un homme moderne, épaulé par son double, le duc de Morny, dandy et agioteur professionnel. Lors de la visite du couple royal britannique accueilli par l'empereur à Dunkerque, une somptueuse fête est organisée à Versailles pour parachever une visite découverte des merveilles du palais. Rien n'est trop beau pour l'occasion. La cour de marbre, la galerie des glaces, l'opéra royal sont éclairés au gaz. Deux orchestres ont été placés aux deux extrémités de la galerie qui est illuminée par des torchères, des milliers de lustres et des candélabres girandoles. On tire un feu d'artifice somptueux depuis la pièce d'eau des Suisses, puis Napoléon ouvre le bal avec la reine Victoria et bientôt, ils sont 1500 à tournoyer en crinoline et uniforme avant de s'attabler à l'opéra pour un gigantesque banquet où la loge d'honneur de ses altesses domine les autres loges. Et tandis que la reine Victoria se retire aux 12 coups de minuit, les festivités perdurent jusqu'à 3 heures du matin. La visite imprévisible de la reine d'Angleterre au tombeau de Napoléon, sous un orage dantesque, et son recueillement ainsi que celui du prince de Galles devant l'ennemi juré des Britanniques étaient les signes manifestes qu'une page était tournée et l'amitié des deux couples cimentait les prémices d'une future entente cordiale. Oui, notre empereur est un homme festif, qui n'hésite pas lors de certaines soirées à tourner lui-même la manivelle d'un piano mécanique, tandis que Prosper Mérimée lance des boutades. Mais il n'est pas que cela. Considéré comme connard par Friedrich Engels et comme un minus par le baron de Rothschild, Louis, pétri des idées de Saint-Simon, aspire à doter la France d'une économie prospère, à présent qu'il a imposé une stabilité politique. Il a l'imagination fertile, envisageant la mise en place de sortes de kolkhoz pour freiner l'exode rural, estimant que le pays a besoin d'une population saine et vigoureuse. Sous son règne, outre des lois sur l'assainissement des logements et la création d'une police sanitaire, l'émergence d'une caisse nationale pour la vieillesse, l'assistance judiciaire gratuite pour les travailleurs pauvres, la suppression du délit de coalition et l'instauration du droit de grève font passer le pays dans une nouvelle ère. Étonnamment moderne, l'empereur veut que l'État se mêle le moins possible de la vie de ses sujets, déléguant aux plus habiles entrepreneurs privés nommés à des postes clés le soin de faire passer le pays à l'ère moderne. Création de sociétés commerciales, mais aussi pour le transport des marchandises et des touristes à venir. Un réseau dense de chemins de fer dont les gares sont les nouvelles cathédrales. Bien sûr, les débuts ont été modestes, même si par rapport aux coches d'eau, les charges remorquables ont été multipliées par 100 et la vitesse par 10 par rapport aux diligences. Nous n'avons encore que 4000 km de voies ferrées et faisons pâle figure face aux Anglais, aux Allemands et aux Américains. Les voitures de première classe sont un parfum de diligence sur rail, avec un éclairage à huile et un chauffage par bouillotte, tandis que les classes inférieures ne proposent que des fourgons à bancs en bois sans toiture, les exposant aux pluies, y compris des scarbilles, et une absence de vitres, jusqu'en 1850 où Napoléon III les fait installer à la place des rideaux dans les troisièmes classes, ce qui a pour conséquence qu'une majeure partie des voyageurs délaissent les sièges rembourrés des classes supérieures pour voyager à l'économie. Les locomotives de 6,50 m sortent de couleurs vives et crachent la vapeur par des cheminées démesurées. On va pouvoir accélérer le transport de denrées périssables, créer une multitude d'emplois nouveaux, et voici qu'un Anglais, Thomas Russell Crampton, boudé par ses compatriotes, traverse le Channel et nous apporte sur un plateau des locomotives d'un nouveau type qui vont un jour tutoyer le 120 km par heure. Après 1848 et ses révoltes, le saccage de voies ferrées, de ponts et de gares, la quasi-faillite des compagnies, vient alors en 1849 la reprise des investissements et des inaugurations solennelles où l'on voit l'évêque de Châlons bénir les locomotives. Napoléon III n'est pas qu'un empereur qui veut plaire à son peuple, il est pétri de modernisme. Avec lui, le télégraphe électrique, la constitution de compagnies transatlantiques, la construction de navires de guerre à vapeur, la création du crédit foncier aidant petits propriétaires et petits commerçants. Côté scientifique, nous sommes dans une période faste. Découverte de la planète Neptune, étude de la vitesse de la lumière, travaux sur la glycémie, sur l'anesthésie par l'éther et par le chloroforme, multiples découvertes médicales, invention des jumelles à prisme, du vélocipède à deux roues, de la pédale, étude d'un métropolitain souterrain pour relier Gare du Nord et Gare de Lyon. On perce les Pyrénées de 26 tunnels, le premier funiculaire est mis en service à la Croix-Rousse lyonnaise. On construit des ponts en fer ainsi que des navires en fer suite aux déboires de la guerre de Crimée. À l'international, l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie, le Sénégal, la Somalie, le Cambodge, le canal de Suez concourent au prestige du pays.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Pour épauler les initiatives de Napoléon III, on retrouve son demi-frère, le duc de Morny, qui n'est pas qu'un dandy festif mais se double d'un redoutable agioteur. Outre sa raffinerie de sucre, ses mines de la vieille montagne et la compagnie des houillères et forges d'aubières, il spécule avec le succès des coupables de délits d'initiés sur les terrains promis à des reconstructions haussmanniennes en les acquérant à vil prix, puis en les revendant cette fois plus cher. Mondain accompli, il chasse, pratique le sport, est assidu à l'opéra comme à la comédie française et brille dans les salons privés. Sa grande affaire reste le chemin de fer et il va s'associer à un groupe de la City pour étendre la toile d'araignée des liaisons ferroviaires. Sur son seul nom, tous se pressent pour acquérir les actions car l'homme transforme en or tout ce qu'il touche et anticipe les besoins à venir, l'acquisition des chemins de fer espagnols par exemple. Enfourchant le destrier du progrès, l'éditeur achète, multiplie les points de vente de livres dans les gares. Nous avons jadis évoqué comment la comtesse de Ségur y diffusa ses contes pour enfants. Morny investit dans la bonne idée, copiée sur les bibliothèques de gare de W.H. Smith. Ce diable d'homme est absolument de tous les coups. On tente de l'éloigner en l'expédiant comme ambassadeur à Saint-Pétersbourg. Et le voici qui prend langue avec les frères Pereire et les met en rapport avec un groupe de banquiers moscovites. Il sera également à la manœuvre après les chemins de fer russes pour les 1357 km du réseau ferré algérien. Et puis, il pense tourisme. Trouville est saturé. Mais à peu de distance, quelques maisons de pêcheurs plantées au-dessus d'un marécage tentent Morny et ses comparses qui vont acheter le tout 1000 francs l'hectare et y édifier hôtels, casinos et boulevards maritimes. Et comme le seul nom de Morny est synonyme de bonne affaire, Metternich, le prince d'Emidoff, Lafitte, le duc de Gramont et tant d'autres vont acheter 10 000 francs l'hectare les mêmes terrains et édifier de luxueuses villas vers cet ex-petit village que les gens du cru appelaient Deauville. Il restera à relier par voie ferrée la capitale à la nouvelle station à la mode. Le couple impérial va de son côté s'impliquer dans la promotion du thermalisme. On peut évoquer Plombières-les-Bains qui bénéficia d'une gare transformée depuis en casino, d'un établissement thermal, les Thermes Napoléon, doté d'une voûte de 18 mètres de hauteur, d'un parc impérial et d'un grand hôtel. Les fantômes d'Alfred de Musset, de Lamartine et de Berlioz y rôdent encore. C'est là que l'empereur rencontre Cavour afin de préparer l'unité italienne, là qu'il signe le décret créant le corps des tirailleurs sénégalais. À Luxeuil-les-Bains, l'empereur s'attache à faire restaurer la maison François Ier tandis qu'Eugénie promeut la dentelle locale auprès des mondaines. Les thermes en grès rose des Vosges sont classés monuments historiques. À Vichy, où Napoléon III prend les eaux, il concède l'ensemble à Le Bob et Caillou, fait construire un casino-théâtre, une église, perce des avenues, crée des buvettes, commande un orchestre dirigé par Strauss et continue malgré tout de souffrir de la maladie de la pierre, son médecin personnel, le docteur Conneau, l'ayant mal aiguillé puisque c'est à Vittel que se soigne ce mal. La station d'Eugénie-les-Bains dans les Landes est inaugurée en 1861. Quant à Biarritz, simple village de pêcheurs où la jeune Montiro séjournait avec sa famille, l'impératrice va y entraîner son époux qui lui fera construire une somptueuse demeure. Le couple se rendra populaire, Eugénie en se mêlant à la population, en envoyant son médecin à des familles nécessiteuses, en soutenant nombre d'œuvres. Son époux, lui, n'hésitera pas à frayer avec les pêcheurs, avec l'aide de traducteurs basques et gascons, nageant parmi les baigneurs et ouvrant des rallonges budgétaires pour les projets du maire Biarrot. À Aix-les-Bains, sur les traces de Pauline Bonaparte, de Joséphine et de la reine Hortense, Napoléon va moderniser l'hôpital et financer les thermes Pellegrini. On le voit, le thermalisme bénéficia grandement du Second Empire. L'industrie accomplit aussi des pas de géant. Des gisements d'or en Californie et en Australie multiplient l'encaisse or de la Banque de France par 8. Le crédit foncier, nouvellement créé, finance des aménagements urbains. Crédit immobilier, crédit industriel et commercial, crédit lyonnais, Société Générale vont naître, tout comme les chais. Les ports prennent de l'expansion. Certains projets d'avenir restent dans les cartons, comme ce canal prévu pour récupérer les eaux du Rhône, projet rejeté par les élus de Nîmes et qui préfigurait le futur canal du Baronne. La puissance des machines à vapeur est multipliée par 4, la consommation de charbon triple, la production d'acier quadruple. L'industrie textile est en plein essor. L'agriculture décolle plus lentement, car la création du crédit agricole est rejetée par le Conseil d'État. Néanmoins, Landes et Sologne bénéficient de drainage. Napoléon III, malgré l'opposition d'industriels notables, développe le libre-échange, en particulier par des accords d'abaissement de droits de douane, certains signés en secret. Côté avancée sociale, les réalisations seront bien en deçà des ambitions affichées par un prince qui disait « La pauvreté ne sera plus séditieuse quand l'opulence ne sera plus oppressive ». La soumission aux principes sacrés du libéralisme, comme la défaite de 1870, ne permirent pas d'aller aussi loin que l'empereur l'eût souhaité. Ses ambitions n'empêchèrent point de grandes grèves, avec une répression qui fit 14 morts à la Ricamarie et 13 à Aubin. Oui, cette époque est riche en tout point. Le 16 février 1855, ordre est donné de créer un service météorologique suite au rapport d'une commission d'études de l'astronome Le Verrier. Il s'agit d'éviter un désastre, comme celui qui vit 38 cargos franco-anglais et 3 vaisseaux de guerre pulvérisés par une tempête le 14 novembre 1854 au large de Sébastopol. Prévoir le temps qu'il fera devient une nécessité. Communiquer à distance aussi. Le 16 février 1865, le pantélégraphe de l'abbé Giovanni Caselli permet de transmettre et recevoir une image à distance. Le fax vient de naître. Napoléon III fut également un père biologique prolifique. Si son épouse finit par lui offrir péniblement un héritier, d'autres multiplièrent ses rejetons en paternité. En 1839, Bonaventure Carrère avec Maria Anna Schiss, Eugène et Alexandre Burin, 1843 et 1845 avec Éléonore Vergeau comme nous l'avons évoqué, Arthur Hugenschmidt en 1862 avec Virginia Oldwani, Charles Leboeuf en 1865 avec Julie Leboeuf alias Marguerite Bélanger à la Seine, Jules Adot en 1865 avec Valentine Haussmann, Benoît Depuy avec Armance Depuy. Il faut ajouter Christian Corbière, fabriqué avec Pascal Corbière, épouse de son cocher, et par ailleurs nourrice des enfants adultérins de l'empereur. On le voit, pas moins de 8 enfants conçus, sans parler évidemment des maîtresses qu'il n'engrossa pas. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, l'Empire, c'est la paix. Un beau programme. Puis vinrent Sébastopol et Solferino. C'est ce que nous découvrirons lors de notre prochaine rencontre.
S'il faut parler, faisons causette. Vous avez une jolie voix. Je crois deviner que vous n'êtes pas seulement ce qu'on en voit. Mais pourquoi brûler les étapes et ne pas flâner en chemin? Comme les mouches, on ne m'attrape pas du premier revers de main. Faites-moi plutôt la cour, ça devient rare de nos jours. On ne se tourne plus en tour. N'importe qui peut faire l'amour comme une simple performance. Mais l'élégance, mais l'espérance de se frôler dans un détour. Mais la patience, ça n'a plus cours. S'il faut toucher dès qu'on approche, n'approchez pas, ça sera mieux. S'il faut, pour ne pas être cloche, se réveiller près d'un monsieur dont on ne connaît pas l'enfance, à peine la couleur des yeux. Si c'est fini quand ça commence, voyez, ça me fatigue un peu. Faites-moi plutôt la cour, ça devient rare de nos jours. On ne se tourne plus autour. N'importe qui peut faire l'amour comme une simple performance. Mais l'élégance, mais l'espérance de se frôler dans un détour. Mais la patience, ça n'a plus cours. Si on ne risque pas d'entendre le moindre battement de cœur, si c'est ridicule d'attendre que l'on se fasse un peu moins peur, moi je n'ai rien d'une acrobate, je préfère le sentiment. S'il faut aimer comme on se gratte, ça ne m'amuse pas vraiment. Faites-moi plutôt la cour, ça devient rare de nos jours. On ne se tourne plus autour. N'importe qui peut faire l'amour comme une simple performance. Mais l'élégance, mais l'espérance de se frôler dans un détour. Mais la patience, ça n'a plus cours. S'il faut supprimer la musique et ne garder que le tempo, s'il faut faire la gymnastique et tordre le cou aux oiseaux, allez, vous vous trompez d'adresse et vous trouverez bien ailleurs. À moins que d'une histoire de fesses vous fassiez une histoire de cœur. Faites-moi déjà la cour, et nous verrons dans quelques jours, quand vous m'aurez tourné autour. Nous verrons si ces beaux discours ont toujours autant d'importance, et l'élégance, et l'espérance de se frôler dans un détour. Et la patience pourront toujours vivre dans les chansons d'amour, rien que dans les chansons.